Chapitre 7 L'idée chrétienne est l'avenir du monde. En définitive, mes investigations m'amènent à conclure que l'ancienne société s'enfonce sous elle, qu'il est impossible à quiconque n'est pas chrétien de comprendre la société future poursuivant son cours et satisfaisant à la fois ou l'idée purement républicaine ou l'idée monarchique modifiée. Dans toutes les hypothèses, les améliorations que vous désirez, vous ne les pouvez tirer que de l'Évangile. Au fond des combinaisons des sectaires actuels, c'est toujours le plagiat, la parodie de l'Évangile, toujours le principe apostolique qu'on retrouve. Ce principe est tellement entré en nous que nous en usons comme nous appartenant. Nous nous le présumons naturel, quoiqu'il ne nous le soit pas. Il nous est venu de notre ancienne foi à prendre celle-ci à 2 ou 3 degrés d'ascendance au-dessus de nous. Tel esprit indépendant qui s'occupe du perfectionnement de ses semblables n'y aurait jamais pensé si les droits des peuples n'avaient été posés par le Fils de l'homme. Tout acte de philanthropie auquel nous nous livrons, tout système que nous rêvons dans l'intérêt de l'humanité, n'est que l'idée chrétienne retournée, changée de nom et trop souvent défigurée. C'est toujours le Verbe qui se fait chair. Voulez-vous que l'idée chrétienne ne soit que l'idée humaine en progression? J'y consens. Mais ouvrez les diverses cosmogonies. Vous apprendrez qu'un christianisme traditionnel a devancé sur la terre le christianisme révélé. Si le Messie n'était pas venu et qu'il n'eût point parlé, comme il le dit de lui-même, l'idée n'aurait pas été dégagée. Les vérités seraient restées confuses, telles qu'on les entrevoit dans les écrits des anciens. C'est donc, de quelque façon que vous l'interprétiez, du révélateur ou du Christ que vous tenez tout. C'est du Sauveur, Salvator, du Consolateur, Paracletus, qu'il vous faut toujours partir. C'est de lui que vous avez reçu les germes de la civilisation et de la philosophie. Vous voyez donc que je ne trouve de solution à l'avenir que dans le christianisme et dans le christianisme catholique. La religion du Verbe est la manifestation de la vérité, comme la création et la visibilité de Dieu. Je ne prétends pas qu'une rénovation générale ait absolument lieu, car j'admets que des peuples entiers soient voués à la destruction. J'admets aussi que la foi se dessèche en certains pays. Mais s'il en reste un seul grain, s'il tombe sur un peu de terre, ne fût-ce que dans les débris d'un vase, ce grain lèvera, et une seconde incarnation de l'esprit catholique ranimera la société. Le christianisme est l'appréciation la plus philosophique et la plus rationnelle de Dieu et de la création. Il renferme les 3 grandes lois de l'univers, la loi divine, la loi morale, la loi politique. La loi divine, unité de Dieu en 3 essences. La loi morale, charité. La loi politique, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Les 2 premiers principes sont développés. Le 3e, la loi politique, n'a point reçu ses compléments, parce qu'il ne pouvait fleurir, tandis que la croyance intelligente de l'être infini et la morale universelle n'étaient pas solidement établies. Or, le christianisme eut d'abord à déblayer les absurdités et les abominations dont l'idolâtrie et l'esclavage avaient encombré le genre humain. Des personnes éclairées ne comprennent pas qu'un catholique tel que moi s'entête à s'asseoir à l'ombre de ce qu'elles appellent des ruines. Selon ces personnes, c'est une gageure, un parti pris. Mais dites-le-moi, par pitié, où trouverai-je une famille et un Dieu dans la société individuelle et philosophique que vous me proposez? Dites-le-moi et je vous suis. Sinon, ne trouvez pas mauvais que je me couche dans la tombe du Christ, seul abri que vous m'avez laissé en m'abandonnant. Non, je n'ai point fait une gageure avec moi-même. Je suis sincère. Voici ce qui m'est arrivé. De mes projets, de mes études, de mes expériences, il ne m'est resté qu'un détrompé complet de toutes les choses que poursuit le monde. Ma conviction religieuse, en grandissant, a dévoré mes autres convictions. Il naît ici-bas chrétien plus croyant et homme plus incrédule que moi. Loin d'être à son terme, la religion du libérateur entre à peine dans sa troisième période, la période politique, liberté, égalité, fraternité. L'Évangile, sentence d'acquittement, n'a pas été lu encore à tous. Nous en sommes encore aux malédictions prononcées par le Christ. Malheur à vous qui chargez les hommes de fardeaux qu'ils ne sauraient porter, et qui ne voudriez pas les avoir touchés du bout du doigt. Le christianisme, stable dans ses dogmes, est mobile dans ses lumières. Sa transformation enveloppe la transformation universelle. Quand il aura atteint son plus haut point, les ténèbres achèveront de s'éclaircir. La liberté, crucifiée sur le calvaire avec le Messie, en descendra avec lui. Elle remettra aux nations ce Nouveau Testament écrit en leur faveur et jusqu'ici entravé dans ses clauses. Les gouvernements passeront, le mal moral disparaîtra. La réhabilitation annoncera la consommation des siècles de mort et d'oppression, née de la chute. Quand viendra ce jour désiré? Quand la société se recomposera-t-elle d'après les moyens secrets du principe générateur? Nul ne le peut dire. On ne saurait calculer les résistances des passions. Plus d'une fois la mort engourdira des races, versera le silence sur les événements comme la neige tombée pendant la nuit fait cesser le bruit des chars. Les nations ne croissent pas aussi rapidement que les individus dont elles sont composées et ne disparaissent pas aussi vite. Que de temps ne faut-il point pour arriver à une seule chose cherchée ? L'agonie du bas empire pensa ne pas finir. L'ère chrétienne, déjà si étendue, n'a pas suffi à l'abolition de la servitude. Ces calculs, je le sais, ne vont pas au tempérament français. Dans nos révolutions, nous n'avons jamais admis l'élément du temps. C'est pourquoi nous sommes toujours ébahis des résultats contraires à nos impatiences. Pleins d'un généreux courage, des jeunes gens se précipitent. Ils s'avancent tête baissée vers une haute région qu'ils entrevoient et qu'ils s'efforcent d'atteindre. Rien de plus digne d'admiration, mais ils useront leur vie dans ces efforts. Arrivés au terme, de mécompte en mécompte, ils consigneront le poids des années déçues à d'autres générations abusées qui le porteront jusqu'au tombeau voisin, ainsi de suite. Le temps du désert est revenu. Le christianisme recommence dans la stérilité de la Thébaïde, au milieu d'une idolâtrie redoutable, l'idolâtrie de l'homme envers soi. Il y a deux conséquences dans l'histoire, l'une immédiate et qui est à l'instant connue, l'autre éloignée et qu'on n'aperçoit pas d'abord. Ces conséquences souvent se contredisent. Les unes viennent de notre courte sagesse, les autres de la sagesse perdurable. L'événement providentiel apparaît après l'événement humain. Dieu se lève derrière les hommes. Niez tant qu'il vous plaira le suprême conseil. Ne consentez pas à son action. Disputez sur les mots. Appelez force des choses ou raison, ce que le vulgaire appelle providence. Regardez à la fin d'un fait accompli, et vous verrez qu'il a toujours produit le contraire de ce qu'on en attendait, quand il n'a point été établi d'abord sur la morale et sur la justice. Si le ciel n'a pas prononcé son dernier arrêt, si un avenir doit être un avenir puissant et libre, cet avenir est loin encore, loin au-delà de l'horizon visible. On n'y pourra parvenir qu'à l'aide de cette espérance chrétienne, dont les ailes croissent à mesure que tout semble la trahir, espérance plus longue que le temps et plus forte que le malheur. Chapitre 8. Récapitulation de ma vie. l'ouvrage inspiré par mes cendres et destiné à mes cendres subsistera-t-il après moi ? Il est possible que mon travail soit mauvais. Il est possible qu'en voyant le jour, ces mémoires s'effacent. Du moins, les choses que je me serais racontées auront servi à tromper l'ennui de ces dernières heures, dont personne ne veut et dont on ne sait que faire. Au bout de la vie est un âge amer. Rien ne plaît parce qu'on est digne de rien. Bon à personne, fardeau à tous, près de son dernier gîte, on n'a qu'un pas à faire pour y atteindre. À quoi servirait de rêver sur une plage déserte? Quelles aimables ombres apercevrait-on dans l'avenir, fille des nuages qui volent maintenant sur ma tête? Une idée me revient et me trouble. Ma conscience n'est pas rassurée sur l'innocence de mes veilles. Je crains mon aveuglement et la complaisance de l'homme pour ses fautes. Ce que j'écris est-il bien selon la justice? La morale et la charité sont-elles rigoureusement observées? Ai-je eu le droit de parler des autres? Que me servirait le repentir si ces mémoires faisaient quelque mal? Ignorés et cachés de la terre, vous de qui la vie agréable aux autels, au Père des miracles, salue à vos secrètes vertus. Ce pauvre, dépourvu de science, et dont on ne s'occupera jamais, a, par la seule doctrine de ses mœurs, exercé sur ses compagnons de souffrance l'influence divine qui émanait des vertus du Christ. Le plus beau livre de la terre ne vaut pas un acte inconnu de ces martyrs sans nom, dont Hérode avait mêlé le sang à leur sacrifice. Vous m'avez vu naître, vous avez vu mon enfance, l'idolâtrie de ma singulière création dans le château de Combourg, ma présentation à Versailles, mon assistance à Paris au premier spectacle de la Révolution. Dans le Nouveau Monde, je rencontre Washington. Je m'enfonce dans les bois. Le naufrage me ramène sur les côtes de ma Bretagne. Arrivent mes souffrances comme soldat, ma misère comme émigré. Rentré en France, je deviens l'auteur du génie du christianisme. Dans une société changée, je compte et je perds des amis. Bonaparte m'arrête et se jette, avec le corps sanglant du duc d'Enghien, devant mes pas. Je m'arrête à mon tour. Et je conduis le grand homme de son berceau en Corse à sa tombe à Sainte-Hélène. Je participe à la restauration et je la vois finir. Ainsi la vie publique et privée m'a été connue. 4 fois j'ai traversé les mers. J'ai suivi le soleil en Orient, touché les ruines de Memphis, de Carthage, de Sparte et d'Athènes. J'ai prié au tombeau de Saint-Pierre et adoré sur le Golgotha. Pauvre et riche, puissant et faible, heureux et misérable, homme d'action, homme de pensée, j'ai mis ma main dans le siècle, mon intelligence au désert. L'existence effective s'est montrée à moi au milieu des illusions, de même que la terre apparaît aux matelots parmi les nuages. Si ces faits répandus sur mes songes, comme le vernis qui préserve des peintures fragiles, ne disparaissent pas, ils indiqueront le lieu par où a passé ma vie. Dans chacune de mes 3 carrières, je m'étais proposé un but important. Voyageur, j'ai aspiré à la découverte du monde polaire. Littérateur, j'ai essayé de rétablir le culte sur ses ruines. Homme d'État, je me suis efforcé de donner au peuple le système de la monarchie pondérée, de replacer la France à son rang en Europe, de lui rendre la force que les traités de Vienne lui avaient fait perdre. J'ai du moins aidé à conquérir celle de nos libertés qui les vaut toutes, la liberté de la presse. Dans l'ordre divin, religion et liberté. Dans l'ordre humain, honneur et gloire. Qui sont la génération humaine de la religion et de la liberté. Voilà ce que j'ai désiré pour ma patrie. Des auteurs français de ma date, je suis quasi le seul qui ressemble à ces ouvrages. Voyageur, soldat, publiciste, ministre, c'est dans les bois que j'ai chanté les bois, sur les vaisseaux que j'ai peint l'océan, dans les camps que j'ai parlé des armes, dans l'exil que j'ai appris l'exil, dans les cours, dans les affaires, dans les assemblées, que j'ai étudié les princes, la politique et les lois. Les orateurs de la Grèce et de Rome furent mêlés à la chose publique et en partagèrent le sort. Dans l'Italie et l'Espagne de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, les premiers génies des lettres et des arts participèrent au mouvement social. Quelles orageuses et belles vies que celles de Dante, de Tasse, de Camoens, d'Ercilia, de Cervantes! En France, anciennement, nos cantiques et nos récits nous parvenaient de nos pèlerinages et de nos combats. Mais, à compter du règne de Louis XIV, nos écrivains ont trop souvent été des hommes isolés, dont les talents pouvaient être l'expression de l'esprit, non des faits de leur époque. Moi, bonheur ou fortune, après avoir campé sous la hutte de l'Iroquois et sous la tente de l'Arabe, après avoir revêtu la casaque du sauvage et le caftan du mamelouk, je me suis assis à la table des rois pour retomber dans l'indigence. Je me suis mêlé de paix et de guerre. J'ai signé des traités et des protocoles. J'ai assisté à des sièges, des congrès et des conclaves, à la réédification et à la démolition des trônes. J'ai fait de l'histoire et je la pouvais écrire. Et ma vie solitaire et silencieuse marchait au travers du tumulte et du bruit avec les filles de mon imagination, Atala, Amélie, Blanca, Véléda, sans parler de ce que je pourrais appeler les réalités de mes jours si elles n'avaient elles-mêmes la séduction des chimères. J'ai peur d'avoir eu une âme de l'espèce de celle qu'un philosophe ancien appelait une maladie sacrée. Je me suis rencontrée entre deux siècles comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis née, nageant avec espérance vers une rive inconnue. Chapitre 9. Résumé des changements arrivés sur le globe pendant ma vie. La géographie entière a changé depuis que, selon l'expression de nos vieilles coutumes, j'ai pu regarder le ciel de mon lit. Si je compare deux globes terrestres, l'un du commencement, l'autre de la fin de ma vie, je ne les reconnais plus. Une cinquième partie de la Terre, l'Australie, a été découverte et s'est peuplée. Un sixième continent vient d'être aperçu par des voiles françaises dans les glaces du pôle Antarctique, et les Parry, les Ross, les Franklin ont tourné à notre pôle, les côtes qui dessinent la limite de l'Amérique au septentrion. L'Afrique a ouvert ses mystérieuses solitudes. Enfin, il n'y a pas un coin de notre demeure qui soit actuellement ignoré. On attaque toutes les langues de terre qui séparent le monde. On verra sans doute bientôt des vaisseaux traverser l'isthme de Panama et peut-être l'isthme de Suez. L'histoire a fait parallèlement au fond du temps des découvertes. Les langues sacrées ont laissé lire leur vocabulaire perdu. Jusque sur les granites de Mesraïm, Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert et qui répondaient de leur éternelle discrétion. Entre parenthèses, M. Charles Lenormand, savant compagnon de voyage de Champollion, a préservé la grammaire des obélisques que M. Ampère est allé étudier aujourd'hui sur les ruines de Thèbes et de Memphis. Note de l'auteur. Que si les révolutions nouvelles ont rayé de la carte la Pologne, la Hollande, Gênes et Venise, d'autres républiques occupent une partie des rivages du Grand Océan et de l'Atlantique. Dans ces pays, la civilisation perfectionnée pourrait prêter des secours à une nature énergique. les bateaux à vapeur remonteraient ces fleuves destinés à devenir des communications faciles, après avoir été d'invincibles obstacles. Les bords de ces fleuves se couvriraient de villes et de villages, comme nous avons vu de nouveaux États américains sortir des déserts du Kentucky. Dans ces forêts réputées impénétrables, fuiraient ces chariots sans chevaux, transportant des poids énormes et des milliers de voyageurs. Sur ces rivières, sur ces chemins, descendraient, avec les arbres pour la construction des vaisseaux, les richesses des mines qui serviraient à les payer. Et l'isthme de Panama romprait sa barrière pour donner passage à ses vaisseaux dans l'une et l'autre mer. La marine qui emprunte du feu le mouvement ne se borne pas à la navigation des fleuves. Elle franchit l'océan. Les distances s'abrègent. Plus de courants, de moussons, de vents contraires, de blocus, de ports fermés. Il y a loin de ces romans industriels au hameau de Plancouette. En ces temps-là, les dames jouaient aux jeux d'autrefois à leur foyer. Les paysannes filaient le chanvre de leurs vêtements. La maigre bougie de résine éclairait les veillées de village. La chimie n'avait point opéré ses prodiges. Les machines n'avaient pas mis en mouvement toutes les eaux et tous les fers pour tisser les laines ou broder les soies. Le gaz resté aux météores ne fournissait point encore l'illumination de nos théâtres et de nos rues. Ces transformations ne se sont pas bornées à nos séjours. Par l'instinct de son immortalité, l'homme a envoyé son intelligence en haut. À chaque pas qu'il a fait dans le firmament, il a reconnu des miracles de la puissance inénarrable. Cette étoile, qui paraissait simple à nos pères, est double et triple à nos yeux. Les soleils interposés devant les soleils se font ombre et manquent d'espace pour leur multitude. Au centre de l'infini, Dieu voit défiler autour de lui ses magnifiques théories, preuves ajoutées aux preuves de l'être suprême. Représentons-nous, selon la science agrandie, notre chétive planète nageant dans un océan à vagues de soleil, dans cette voie lactée, matière brute de lumière, métal en fusion de monde que façonnera la main du Créateur. La distance de telles étoiles est si prodigieuse que leur éclat ne pourra parvenir à l'œil qui les regarde que quand ces étoiles seront éteintes, le foyer avant le rayon. Que l'homme est petit sur l'atome où il se meut, mais qu'il est grand comme intelligence. Il sait quand le visage des astres se doit charger d'ombre, à quelle heure reviennent les comètes après des milliers d'années, lui qui ne vit qu'un instant. Insectes microscopiques, inaperçus dans un pli de la robe du ciel, les globes ne lui peuvent cacher un seul de leurs pas dans la profondeur des espaces. Ces astres, nouveaux pour nous, quelle destinée éclaireront-ils? La révélation de ces astres est-elle liée à quelque nouvelle phase de l'humanité? Vous le saurez, races à naître. Je l'ignore et je me retire. Grâce à l'exorbitance de mes années, mon monument est achevé. Ce m'est un grand soulagement. Je sentais quelqu'un qui me poussait. Le patron de la barque sur laquelle ma place est retenue m'avertissait qu'il ne me restait qu'un moment pour monter à bord. Si j'avais été le maître de Rome, je dirais, comme Sylla, que je finis mes mémoires la veille même de ma mort. Mais je ne conclurai pas mon récit par ces mots, comme il conclut le sien. J'ai vu en songe un de mes enfants qui me montrait Métélia, sa mère, et m'exhortait à venir jouir du repos dans le sein de la félicité éternelle. Si j'eusse été Sylla, la gloire ne m'aurait jamais pu donner le repos et la félicité. Des orages nouveaux se formeront. On croit pressentir des calamités qui l'emporteront sur les afflictions dont nous avons été accablés. Déjà, pour retourner au champ de bataille, on songe à rebander ces vieilles blessures. Cependant, je ne pense pas que des malheurs prochains éclatent. Peuples et rois sont également recrues. Des catastrophes imprévues ne fondront pas sur la France. Ce qui me suivra ne sera que l'effet de la transformation générale. On touchera sans doute à des stations pénibles. Le monde ne saurait changer de face sans qu'il y ait douleur. Mais, encore un coup, ce ne seront point des révolutions à part. Ce sera la grande révolution allant à son terme. Les scènes de demain ne me regardent plus. Elles appellent d'autres peintres. À vous, messieurs. En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre, qui donne à l'ouest sur les jardins des missions étrangères, est ouverte. Il est 6 heures du matin. J'aperçois la lune pâle et élargie. Elle s'abaisse sur la flèche des Invalides, à peine révélée par le premier rayon doré de l'Orient. On dirait que l'ancien monde finit et que le nouveau commence. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse. Après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité.